Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why
I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans ce magazine des industries culturelles et du numérique Soft Power, comme tous les dimanches soirs, 18h10 à 20h en direct. Entre communication, médias et politique, il y a le porte-parole du gouvernement. Il fixe un cap, donne le là en matière de communication d'État. C'est l'homme des EDL, comme on dit dans les cabinets ministériels, c'est-à-dire les éléments de langage, les EDL. Au cours de la Ve République, la fonction a évolué, le style a changé, que l'on pense à André Malraux ou Alain Perfitte ou De Gaulle, qui n'étaient d'ailleurs pas des porte-parole en titre, mais ils l'étaient un peu avant la lettre. Jean-Philippe Lecas ou Pompidou, André Rossi sous Giscard d'Estaing, et bientôt une fonction qui s'institutionnalise sous François Mitterrand avec Max Gallo, Roland Dumas, Georgina Dufoy, Jack Lang, plus tard Alain Juppé sous Chirac, Nicolas Sarkozy dans le gouvernement Balladur, Jean-François Copé, Christine Albanel, David Martinon, Najat Vallaud-Belkacem, Christophe Castaner et tant d'autres. Bonsoir Gabriel Attal.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement, c'est un métier?
Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la politique n'est pas un métier. Et donc, être porte-parole du gouvernement, on ne peut pas en être un, puisque quand on fait de la politique, on peut avoir un mandat.
Vous l'avez été, député?
Oui, j'ai été élu député. On peut avoir un mandat en étant nommé par le président de la République et le Premier ministre, ce qui est mon cas aujourd'hui. Mais la politique, c'est pas un métier. On peut avoir un autre métier avant, après, pendant, parfois. Donc, non, ma réponse
serait... Et si vous aviez à choisir un modèle, quel serait-il?
Ah, c'est toujours très difficile.
Puisque le no comment de David Martinon restait célèbre.
Non, je pense pas. Non, j'ai eu une longue discussion avec Jean-Pierre Elkabbach récemment au sujet d'Alain Perfitte.
Qui n'a pas été porte-parole.
Qui n'a pas été porte-parole, mais qui a beaucoup échangé avec Alain Perfitte sur son expérience. Et je dois dire qu'il y a quelques préceptes qui m'ont particulièrement parlé.
Avec vous, nous reviendrons d'abord sur plusieurs questions d'actualité en début d'émission, puis sur la fonction de porte-parole, son histoire, votre manière de travailler, de préparer, d'intervenir dans les médias. Au sommaire encore de cette émission, le Liban qui fait l'objet en ce moment même d'une conférence de presse du président de la République, qui a dû commencer à l'Élysée, et puis d'ailleurs sur France Culture d'un week-end spécial. Ernesto Otone, ancien ministre de la Culture du Chili dans le gouvernement de Michel Bachelet s'occupe du Liban pour l'UNESCO, dont il est sous-directeur de l'UNESCO en charge de la culture, c'est le titre exact. Et vous serez notre invité tout à l'heure dans le village global à 19h30. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Le Liban, pour un Chilien et pour vous, c'est quoi?
C'est la crise face à l'État, pas au gouvernement, à l'État.
On y revient à partir de 19h30 dans le village global. Les pratiques culturelles et numériques des Français, la grande étude du ministère de la Culture nous apporte de riches enseignements que Lou Wolf, le chef du département d'études, de prospective et de statistiques du ministère de la Culture, décryptera pour nous ce soir à 19h15. Il sera notre invité également. Emmanuel Paquette de L'Express et Zoé Sfès de France Culture sont à mes côtés ce soir. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Si on ajoute un hommage à Première Ligne Télévision, une discussion sur la 5G et Stop Covid, sans oublier trois femmes, Juliette Gréco, Ruth Bader Ginsburg et Cindy Sherman, vous avez le sommaire de Soft Power ce soir, magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture, réalisé ce dimanche soir par Perret Legras avec en régie Nasser Moussaoui. Cette émission a été préparée par David Pata avec pour les réseaux sociaux Nicolas Gastineau. Vous pouvez la suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Facebook, sur LinkedIn, sur Spotify et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 20h en direct.
Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Je suis faite pour te lèvres et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées. Mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby.
Tous les jours de la semaine sont vides sans le creux. Mais il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. J'ai les dimanches. J'ai les dimanches.
Trois femmes. J'aimerais vous parler de trois femmes en liberté pour commencer cette émission. La première, on l'écoute. Et on la pleure, à la fois populaire et intello, c'est si rare. Juliette Gréco nous a quittés ce mercredi à l'âge de 93 ans, symbole d'une France libérée, d'une femme libérée aussi, muse de Saint-Germain-des-Prés, du bœuf sur le toit et du bal nègre, hein, entre guillemets. Elle a fréquenté Sartre et Cocteau, fut la petite amoureuse de Miles Davis, l'amie du critique d'art Élie Faure, de Boris Vian. Maurice Merleau-Ponty est tombé amoureux dingue d'elle. Elle a épousé Michel Piccoli, son deuxième mari, avant d'ailleurs un troisième. Elle a chanté les poèmes de Raymond Queneau et de Jules Laforgue, les chansons de Charles Aznavour ou de Jacques Brel parmi tant d'autres. C'était Juliette Gréco, La Liberté. Une réaction, un souvenir peut-être, Gabriel Attal?
Oui, La Liberté et je dirais aussi une forme de grâce ou d'élégance, en tout cas. Moi, j'ai pas grandi en même temps que les
vous
moments...
Vous n'étiez pas à Saint-Germain-des-Prés dans les années 50.
Non, mais pourtant, ça fait partie de ces artistes qui, quand ils décèdent et qu'on réentend toute leur œuvre dans sa diversité, finalement nous rappellent des moments de notre vie et de notre enfance à tous, que ce soit en regardant un film, en entendant une chanson, en passant un moment
Et puis c'est un petit bout de France aussi.
Et c'est un bout de France, vous avez dit tous les... non, avec lesquels elle a travaillé, et donc ça renvoie à tellement de culture dans sa diversité.
Ernesto Otor, et vous êtes chilien à l'UNESCO comme directeur, sous-directeur de l'UNESCO en charge de la culture. Ça vous parle, Juliette Gréco?
J'ai un souvenir de Juliette Gréco. En 82, elle s'est engagée très fortement dans les années 70-80 pour tout l'engagement en Amérique latine et pour les dictatures qu'il y avait en ce moment, contre les dictatures. Et elle avait fait un concert avec les Quilapayún à l'Olympia, 83. Et moi, j'y travaillais, j'étais tout petit à cette époque. Et je me rappelle qu'elle avait fait des récitations de Pablo Neruda. Et c'est les poèmes les plus belles que j'ai entendus en français.
Pablo Neruda. Zoé Svez.
C'est une personnalité extrêmement intéressante parce que c'est une femme qui, elle le disait elle-même, et je lisais par exemple le portrait que lui consacrait le New York Times à l'occasion de sa mort pour essayer de comprendre quel était son soft power. C'est cette figure de la femme française qui, en soi, n'avait pas vraiment de talent à elle. Elle l'a dit, je suis devenue célèbre avant même de faire quoi que ce soit, puisqu'elle était la muse de toutes ces boîtes que vous venez de citer de Saint-Germain. Elle s'est mise à chanter alors qu'elle était déjà célèbre. Elle n'a jamais été qu'interprète, elle n'a jamais écrit elle-même, elle n'a jamais composé. Elle a été, c'est très important, la petite amie, longue petite amie de Miles Davis, ça a été un symbole très fort. C'est elle qui incarnait la possibilité pour toute une série de musiciens noirs d'avoir en France ce qu'on appelait une French girlfriend. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'elle synthétise effectivement, y compris à l'étranger, cette figure absolument française de cette femme qui a pour principal atout son charme et son intelligence. Et une forme, la cigarette à la main, de talent qui est principalement celui de vivre. Après, c'est effectivement extrêmement étrange de penser à sa disparition dans une période comme ça où tout ce qu'elle incarne finalement nous paraît soudain très très loin. La proximité des clubs de Saint-Germain.
Un souvenir aussi plus personnel pour moi, Juliette Gréco, qui fut une grande défenseuse du mariage pour tous. Elle avait accepté de chanter pour la soirée en faveur du mariage pour tous, qui avait eu lieu au Théâtre du Rond-Point en janvier 2013. Elle était déjà très âgée, assez fatiguée, mais elle avait joué sur scène avec son piano. Deuxième femme ce soir, Ruth Bader Ginsburg, l'icône libérale, la femme de la liberté également, membre de la Cour suprême américaine depuis 27 ans. Elle est décédée également la semaine passée à l'âge de 87 ans. L'Amérique lui doit, parmi tant de décisions majeures, plus de droits pour les femmes, la défense des internautes et également le mariage pour tous, le mariage gay aux États-Unis. Une violente bagarre a commencé pour pourvoir son poste avant la présidentielle du 3 novembre. Donald Trump a le pouvoir de la remplacer, mais Joe Biden, ce week-end encore, dans une série de tweets, condamne cette précipitation qu'il juge non démocratique. On le voit, la mort de Ruth Bader Ginsburg et son remplacement perturbent déjà l'élection présidentielle à venir. Et sur la vie de cette icône américaine, vous recommandez, Emmanuel Paquette, un film.
Oui, alors il faut savoir qu'il y a deux, il y a un documentaire qui s'appelle RBG et un film effectivement qui s'appelle Une femme d'exception qui suit en fait ses premiers pas à Harvard jusqu'à sa première victoire devant les prétoires. Alors ce qui est assez fou quand on regarde ce film, alors moi je l'ai découvert, alors peut-être pas vous, mais qu'elle a gagné en fait en défendant un homme. Donc la discrimination d'un homme qui était en fait un pourvoyeur de soins pour sa mère, et il a essayé donc de déduire des frais devant le fisc, et le fisc ne l'a pas accepté puisque ce n'était pas une femme, et donc il s'est défendu, et donc RBG, comme on dit, donc Ruth Bader Ginsburg l'a défendu, et en défendu cet homme a fait une jurisprudence qui après en estimait que en fait les hommes et les femmes avaient les mêmes droits, notamment en matière de pourvoyeur de soins, et petit à petit s'est attaqué avec ses décisions de justice à toutes les autres formes de discrimination aux États-Unis. Donc c'est quand même une figure remarquable qui a réussi une guerre dans les prétoires en attaquant sur un dossier de fiscalité et en défendant un homme. Donc c'est doublement...
Comment s'appelle le film ?
Alors donc c'est Une femme d'exception qui a été coproduit par Alibaba Pictures, donc une firme chinoise. C'est d'autant plus savoureux quand on sait qu'aujourd'hui Donald Trump lui rend hommage. Voilà.
Troisième femme ce soir, et bien vivante celle-là, Cindy Sherman. L'artiste et photographe fait l'objet d'une grande rétrospective à la Fondation Louis Vuitton à Paris jusqu'au 3 janvier. Il faut voir cette exposition sur deux ou trois étages. Cindy Sherman qui est le seul modèle de son œuvre. Ici, maquillée et la perruquée, peroxydée ou masculinisée, affublée de postiches ou de moustaches, vêtue de costumes léonardiens ou haroliens ou en cowboy d'Hollywood. Elle fait tout Cindy. La photo, les décors, les costumes, la technique, l'éclairage, l'accessoiriste, la couturière et bien sûr le modèle unique de son œuvre. Une œuvre rare et on pourrait dire self-centered. Il n'y a qu'elle sur les simèzes, nombril de son œuvre, narcissisme extrême et finalement humaniste. Car à travers elle, ce sont les autres qu'elle décrit, qu'elle fait vivre, les femmes surtout, mais les genres aussi, transgenres et même drag queen avant la lettre, toujours avec empathie. Comme hier Juliette Gréco, Ruth Bader Ginsburg, Cindy Sherman change aujourd'hui le regard que l'on porte sur les genres et sur les femmes.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 18h25, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs Emmanuel Paquette de L'Express et Zoé Sfès de France Culture, ainsi que nos invités ce soir, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, et Ernesto Ottone, directeur général en charge de la culture à l'UNESCO. Premier sujet ce soir et occasion pour nous de rendre hommage au travail de Première Ligne Télévision, PLT Film, une boîte de production audiovisuelle victime d'une attaque terroriste vendredi matin à Paris. Emmanuel Paquette.
Oui, alors cette société de production Première Ligne était déjà là aux attentats de 2015, hein, puisqu'ils étaient dans le même bâtiment que Charlie Hebdo. Ils ont déjà pu assister à cet attentat. Donc c'est un peu une rechute pour cette société de production. Un deuxième traumatisme, société de production qui a été créée par Paul Morera et Luc Herrmann, qui aujourd'hui produit donc des documentaires pour Cache Investigation justement, pour Canal+, pour Arte. Alors parmi les plus connus, il y a les révélations sur les LuxLeaks par exemple. Il y a un documentaire sur Starbucks sans filtre T pour Arte, ou encore Fabrication d'un monstre, donc là on est en plein justement dans le djihadisme, sur Canal+. C'est une boîte de production qui a remporté de nombreux prix, dont un prix Pulitzer qui était partagé pour les révélations autour des Panama Papers en 2016. Et donc ce sont deux salariés qui se trouvaient en bas, en rez-de-chaussée de la société, donc une femme et un homme, qui ont été donc pris pour cible par ce Pakistanais de 18 ans, donc Hassan Ali, qui s'est attaqué avec un hachoir sur ses journalistes.
Une réaction peut-être, Gabriel Attal ?
Bon, évidemment, dire mon soutien à la fois aux victimes et puis à la société de production. C'est un drame et toute l'enquête est en train d'être faite. Vous en parliez tout à l'heure dans le journal pour identifier ce qui a mené cet homme à cet acte. Donc je ne vais pas revenir sur les faits en particulier, mais je pense que ça nous rappelle aussi qu'il y a une lutte contre le terrorisme islamiste dans notre pays qui ne s'arrête pas. Il y a régulièrement des projets d'attentats qui sont déjoué et ça nécessite de garder une vigilance.
Il y a aussi un projet de loi sur le séparatisme.
Oui, il y a un projet de loi sur le séparatisme qui va être présenté prochainement. Moi, je fais très attention à ne pas lier tous les sujets les uns avec les autres. Et d'ailleurs, je ne lie pas le séparatisme à l'islam. Voilà, il y a plusieurs sujets qu'il faut arriver à séparer. Le projet de loi sur le séparatisme, il vise à protéger la République et ceux qui la protègent, et à lutter contre des dérives qu'on observe dans certains territoires où effectivement certains cherchent à placer la loi de la religion au-dessus de la loi de la République. Ça se passe dans des associations, ça se passe dans des écoles hors contrat, comme on dit, ça peut se passer dans un certain nombre de services publics aussi. Et donc ce projet de loi, il vise à donner des outils pour mieux lutter contre ce phénomène contre lequel on agit depuis 3 ans. Moi, je veux rappeler ça aussi.
Oui, parce que comme secrétaire d'État à la jeunesse, vous défendiez le Service National Universel, le SNU, hein, l'ex ou nouveau service civique, qui devrait toujours d'ailleurs être généralisé en 2024, c'est bien ça, et dans lequel cette dimension existe.
Oui, bien sûr, ça, c'est un projet de mixité sociale, territoriale, culturelle, qui vise à rassembler la jeune génération autour des valeurs
de la République. Chaque classe d'âge, quoi, 800 000 personnes chaque année.
À terme, ce sera ça. Aujourd'hui, on a 10 000 jeunes qui sont appelés au service national cette année. Évidemment, il est percuté par l'épidémie de Covid-19, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui les déplacer entre différents territoires et les rassembler, les jeunes. C'est assez compliqué vu les conditions sanitaires. Mais oui, ça va continuer à monter en puissance. Et ça fait partie, c'est un grand projet républicain du président de la République qui fait partie de ce projet.
Oui, sur première ligne, juste une réflexion, parce que vous l'avez dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont toujours été juste proches de ces locaux. La première fois, c'est eux qui ont même les premières vidéos. C'est aussi, il faut le dire, quand vous dites c'est une rechute, c'est surtout les premières personnes qui arrivent sur les lieux avant même les pompiers. Donc c'est déjà une équipe très très traumatisée. Mais il se trouve, et c'est simplement un hasard de lieu, que par ailleurs, première ligne, c'est vraiment une des, disons, des groupes les plus intéressants aujourd'hui sur la question du journalisme. C'est effectivement, vous l'avez dit, Paul Moreira et Luc Herman qui sont à l'initiative de cet agent de presse qui, avec Cache d'Investigation, a quand même marqué, fait partie, disons, des groupes les plus intéressants et probablement les plus offensifs sur la question de la liberté d'information. Paul Moreira, c'est celui qui a co-signé avec Fabrice Arfi de Mediapart en 2015 un livre « Informer n'est pas un délit ». C'est ces journalistes-là qui sont en général les premiers sur la question des divers empêchements qu'il peut y avoir, aussi bien sur la question du source que sur la question des contingences administratives. C'est aussi eux qui co-créent avec le FIGRA et Amnesty International un prix du journalisme d'impact, c'est-à-dire avec cette volonté, cette vision du journalisme comme disons une discipline qui ne revendique pas nécessairement une forme de neutralité mais véritablement d'impact sur les sociétés civiles. C'est un des rares entreprises aujourd'hui qui est le tenant, disons, de cette école-là à la télévision, et c'est important de le noter et de leur rendre hommage particulièrement aujourd'hui.
Second sujet ce soir, Stop Covid, l'application pour lutter contre la propagation du Covid-19, importante sur le plan sanitaire, mais également très décriée, et que Emmanuel Paquette, les ministres même, n'utilisent pas très fréquemment.
Oui, on peut dire que c'est un multi-couac de la part du gouvernement, puisque entre le Premier ministre Jean Castex, Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, Marlène Schiappa, donc la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères...
Oui, il a un téléphone crypté, donc c'est
voilà,
ça l'excuse.
Il a dit qu'il ne pouvait pas l'installer, donc aucun de ces 4 ministres n'utilise Stop Covid, donc c'est une application de traçage, je rappelle, hein, qui permet simplement de savoir si on a été en contact avec une personne qui a contracté le Covid, donc a posteriori, pas a priori, mais a posteriori. Et il faut savoir qu'après plusieurs mois de mise à disponibilité, cette application aujourd'hui est installée par moins de 3% de la population française, les ministres y compris, hein, pour le coup, qu'elle a permis simplement de révéler 252 cas d'infection, donc ce qui est très faible, qu'il y a une procédure anticorps en cours pour favoritisme, puisqu'aujourd'hui c'est Dassault qui s'occupe, une filiale de Dassault s'occupe d'héberger et de maintenir l'application pour un coût de 200 à 300 000 euros. Encore une fois, pour 252 cas pour l'instant qui ont été révélés.
Ça fait un peu cher par cas. Oui.
Et puis voilà, dernier point, c'est la problématique technique choisie par le gouvernement, c'est-à-dire aujourd'hui on est sur une technologie dite centralisée qui est incompatible avec la totalité des autres applications européennes. Donc on est un petit peu un village gaulois avec sa soupe, dont la soupe ne serait partagée par personne pour le coup. Donc j'avais une petite question là-dessus, c'est comment vous gérez ces couacs au sein du gouvernement, avec 4 ministres, dont des régaliens, qui n'utilisent pas
cette
application.
Et déjà, Gabriel Attal, vous l'avez, vous, cette application?
Oui, je l'ai.
Vous savez de quoi il s'agit?
Non, mais je l'ai. Et d'ailleurs, on m'a posé la question sur mon compte Instagram récemment, dans une session de questions-réponses, et j'ai même publié la capture d'écran de mes applis sur mon téléphone pour montrer que j'avais bien Stop Covid. Oui, je l'ai installé.
Alors attention, parce que des gens l'installent, mais n'utilisent pas.
Ils ne l'activent pas, oui. Il faut aussi l'activer. Vous avez raison de le dire.
La deuxième question, c'est, l'avez-vous activé?
Je l'ai activé aussi. Et c'est vrai, ça utilise le Bluetooth, voilà, donc ça peut avoir un impact sur la batterie, donc il faut charger son téléphone. Mais oui, bon, j'avais été interrogé par des confrères à vous il y a quelques semaines, et j'avais dit que Stop Covid n'avait pas trouvé son public. Aujourd'hui, je dis qu'il n'a vraiment pas trouvé son public, puisque même les membres du gouvernement ne l'ont pas tous téléchargé. Bon, ce qui montre aussi une certaine sincérité de mes collègues qui ont assumé de ne pas l'avoir téléchargé, puisque ils auraient pu mentir, personne ne peut vérifier si c'est vrai.
L'accord de Jean Castex, c'était magnifique.
C'était une sincérité absolue, et voilà, je pense que ça doit être souligné. Maintenant, bon, enfin, moi, je ne me résous pas à ce que ça soit pas utilisé, parce que je pense qu'on a besoin d'outils qui permettent de lutter contre l'épidémie. Si on avait fait un autre choix, qui était celui, entre guillemets, de livrer ça aux GAFA, on nous aurait aussi beaucoup critiqué à l'époque. On a fait un choix français. Moi, je pense que cette application, elle peut être utile si on l'utilise. Et d'ailleurs, on a revu, entre guillemets, l'utilisation, puisqu'au départ, on appelait à la télécharger et à l'utiliser et à la brancher tout le temps. Et aujourd'hui, dans les recommandations qui sont faites par
une fois par mois, ça suffit largement.
Non, c'est de dire, quand vous allez, par exemple, dans un restaurant ou dans un bar, quand vous allez dans une réunion en intérieur, bah, vous le branchez à ce moment-là, quitte à le débrancher après, mais au moins, ça en rend.
Ou alors, s'il y a un membre de votre famille qui a le Covid, vous la branchez pour voir si vous le confirme. Voilà. Bien, allez, un mot encore sur notre sujet lié à la technologie, Emmanuel Paquette, les enchères de la 5G, autre sujet assez délicat.
Assez délicat, et un sujet gouvernemental pour le coup aussi, puisque le fruit des enchères va tomber dans l'escarcelle de l'État. Alors effectivement, les fréquences vont être mises en vente ce 29 septembre à partir de 9h30 auprès des 4 opérateurs. Alors c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de faire vite, mais donc il y a 11 blocs de 10 MHz qui sont mis aux enchères pour les 4 opérateurs. À chaque tour d'enchères, les opérateurs doivent faire un certain nombre de demandes sur ces blocs. Si la demande totale est supérieure à l'offre, c'est-à-dire supérieure à 11 blocs, un deuxième tour est organisé avec un incrément du prix de 5 millions. Donc là, le prix de base de la fréquence, c'est 70 millions. Vous rajoutez 5 millions. S'il y a un deuxième tour, encore 5 millions, etc. Et à la fin de la journée, à 17h30, si rien n'est terminé, une deuxième journée va être entamée avec un nouvel incrément qui peut être supérieur à 5 millions. Donc on voit que c'est assez compliqué. Alors il faut savoir que chez les opérateurs, il y a des théoriciens du jeu qui se sont occupés de créer des scénarios pour savoir que ferait SFR, que ferait Orange, que ferait Free autour de ces enchères. Donc ils ont tous cogité dessus, hein, des polytechniciens qui travaillent là-dessus. Hein, donc voilà, normalement il y a des modélisations qui ont été faites. Et à partir de ça, dès qu'ils auront leur fréquence, ils pourront commencer à déployer leur réseau, très probablement d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, dès ce jour, dans le JDD, il y a Cédric Villani, Paola Forteza et Écologie, Démocratie et Solidaire qui interpellent le gouvernement, donc j'en profite, qui dit... Pour être direct, quand le gouvernement se hâte, il commet une erreur démocratique en ne passant pas par un débat préalable. C'est aujourd'hui ce qui est reproché au gouvernement, de ne pas avoir mis sur la table toutes les questions énergétiques, de santé publique, et qu'on a l'impression que tout est géré en même temps que les enchères, dans une rapidité assez folle, puisque ça n'a pas été pris en compte en amont.
Gabriel Attal.
Moi, je sépare deux choses. D'un côté, des inquiétudes, des questions que peuvent se poser des Français sur cette nouvelle technologie, comme sur toute nouvelle technologie, que ce soit sur le volet sanitaire ou environnemental. Il se trouve que vendredi, j'étais en déplacement dans l'Orne, à Flers, et que j'ai eu un déjeuner citoyen avec des citoyens sur la question de la 5G. Et je vois qu'il y a des questions, qu'il peut y avoir des doutes. Et après, du positionnement politique autour de ce dossier par des personnes, souvent dans ce que vous avez cité, qui savent parfaitement que la feuille de route sur la 5G par le gouvernement, elle a été présentée en juin 2018, donc ça fait un certain temps que le débat, il existe depuis un certain temps, que sur le volet sanitaire, il y a un certain nombre d'études qui ont été remises, je crois que c'est une dizaine depuis quelques années, qu'il y en a encore une qui a été remise il y a quelques semaines par l'ANSES, qui est un organisme indépendant qui s'appuie sur des chercheurs indépendants, qui montrent qu'on peut y aller. Et quand on se pose la question de moratoire, d'attendre, etc., moi j'invite toujours à regarder une carte de l'Europe sur le déploiement de la 5G. Vous voyez la 5G partout, et puis vous voyez une tache blanche au milieu, c'est la France, parce que on a fait le choix d'attendre justement pour lever tous les doutes et les inquiétudes. Toutes les études scientifiques montrent que si on respecte les seuils d'exposition, et la France est un des pays qui respecte le plus les seuils d'exposition, il n'y a pas de risque pour la santé. Après, il y a des questions environnementales en matière d'énergie. Et ça, c'est vrai, ça, il y a un rapport qui doit être remis au mois de novembre, je crois, sur le sujet, qui permettra d'adapter le déploiement si on se rend compte qu'il faut faire évoluer les choses. Moi, j'entends aussi des arguments qui sont présentés, je ne suis pas un spécialiste, hein, là, j'assume très modestement, mais qui indiquent que ça peut être moins consommateur d'énergie aussi, ça peut conduire à ce qu'on plante, on ait moins d'antennes à planter, puisqu'une seule antenne peut produire plus de données que les antennes 4G, par exemple. Il faut regarder tout ça aussi, je pense. Et puis avancer.
Oui,
Week-end spécial Liban sur France Culture ce samedi, ce dimanche, alors que le président de la République fait en ce moment même une conférence de presse sur le Liban, et alors même que le premier ministre libanais Mustapha Adib, nommé le 31 août, a renoncé hier à former un gouvernement, un Liban, Zoé Sfez, encore traumatisé par l'explosion tragique du 4 août dernier.
Effectivement, le Liban traumatisé et puis effectivement dans une impasse politique. Et en ce moment, vous le dites, Emmanuel Macron a commencé à prendre la parole et pour le moment, les éléments de discours qu'on a sont extrêmement vifs. Les termes employés, on peut le dire, vont droit au but puisque Emmanuel Macron accuse les dirigeants libanais d'avoir trahi leur pays pour privilégier leurs intérêts, dénonce un mois qui a été perdu avec un risque de déstabilisation de la région, et qui indique aussi que pour lui, le Hezbollah ne peut être une organisation militaire et un responsable politique. Donc je pense qu'effectivement, la suite de cette intervention risque d'avoir du poids politique. Vous l'avez dit, pendant ce week-end, France Culture s'est associée à l'Institut du Monde Arabe pour essayer de soutenir la question de la crise par le biais de la culture, et c'est sur ça que je voulais revenir, parce que c'est peut-être une des rares bonnes nouvelles qui existe, c'est que ce week-end, à la fois avec cet événement en France, mais à peu près partout dans le monde, il y a eu une mobilisation assez impressionnante qui est passée, et on en parlera évidemment tout à l'heure avec le directeur adjoint de l'UNESCO à la culture, qui passe beaucoup par l'art et qui passe beaucoup par la diaspora libanaise, qui est probablement un grand atout du Liban dans cette période-là. On a 4 au moins ventes aux enchères qui se sont tenues ce week-end. C'était à la fois sur des plateformes de vente en ligne aux États-Unis, ça avait lieu en France avec des œuvres d'Atik Raimi un peu partout, qui donc lève de l'argent au profit de différentes ONG. On a Christie's Dubai qui a annoncé la tenue fin octobre, dans la première quinzaine de novembre, d'une très importante vente aux enchères, exactement dans la même idée, avec Christie's Middle East et énormément d'objets libanais qui vont être mis aux enchères avec, je pense, des sommes pour le coup très importantes qui seront là aussi reversées à des ONG libanaises. Et puis à Paris, c'était l'Institut Monde Arabe, c'était hier, Nabil Kanan, qui est le cofondateur et le directeur de Station Beyrouth, qui est un espace d'art alternatif, a annoncé à Lima et au micro de France Culture qu'il il y aura plusieurs associations d'artistes au Liban qui pourront être soutenues grâce aux recettes qui ont été recueillies ce week-end. C'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que Beyrouth a beaucoup souffert, on l'a dit, mais particulièrement les quartiers culturels de Beyrouth ont été touchés, puisqu'il y a eu de gros dégâts dans les quartiers de Mar-Michael et de Guémazier. On en parlera évidemment ensemble. Que donc on a des acteurs culturels libanais qui, eux, souffrent. On a, et ça c'est aussi une des rares bonnes nouvelles, on finira là-dessus, de ce week-end, on a un vrai problème par exemple sur le livre. Aujourd'hui vous êtes étudiant libanais, vous essayez de suivre vos études tant bien que mal par la vidéo, vous avez un problème très concret, c'est que les livres sont des biens importés et qu'avec la dévaluation catastrophique de la monnaie au Liban, aujourd'hui un livre qui coûterait 25 euros vous coûte près de 100 euros, donc il y a un problème très concret jusque-là du prix des livres. Et ce week-end, Hachette, le groupe Hachette français et toutes ses filiales francophones et anglophones annoncent qu'ils s'associent avec un éditeur et un imprimeur libanais, qu'ils cèdent leurs droits. Le but, c'est de pouvoir imprimer le plus de livres possible et au moins permettre à ceux qui le peuvent de, par exemple, recommencer à acheter des livres et notamment très bêtement de suivre leurs études.
Ernesto Auton, vous êtes sous-directeur de l'UNESCO en charge de la culture. Vous avez mené tout récemment des négociations justement avec un certain nombre de représentants libanais. Comment vous réagissez à ce qui se passe en ce moment ?
Oui, en effet, il y a un mois, on est allé avec la directrice générale, Audrey Azoulay sur place. Ouais. Et effectivement, on a eu des rencontres avec avec le monde du patrimoine, les architectes, les ingénieurs, mais aussi avec les industries culturelles, c'est-à-dire avec les artistes. Et c'est un des secteurs qui a été le plus affecté. Et c'est tellement surprenant que dans les rencontres que nous avons eues, je vous parle d'une centaine de créateurs, la plupart des galeries à Beyrouth ont été détruites. Donc en ce moment, sur les 82 galeries, il en reste 2 qui sont ouvertes. Donc vous pouvez comprendre la dimension de ça. Les librairies, il n'y en a aucune qui a survécu. Donc effectivement, c'est un problème grave, surtout de crédibilité et de confiance vis-à-vis de l'État.
On revient avec vous tout à l'heure, vous êtes notre invité à 19h30, Ernesto Ottone. On reviendra notamment sur ce que fait l'UNESCO dans ce dossier. Puis on a appris également, dans la nuit hier matin, la mort de l'écrivain Hussard, éditeur de la Table Ronde, Denis Tillinac, corrézien dans l'âme, intrépide, gaulliste, devenu chiracien, devenu sarkozyste, fan de rugby et conseiller francophonie de Jacques Chirac, qui n'a jamais d'ailleurs vraiment trouvé totalement sa place à l'Élysée. C'était aussi occasionnellement une plume de Jacques Chirac, Gabriel Attal.
Oui, absolument. Moi, je l'ai vu, donc quand je l'ai entendu prendre la parole ou s'exprimer, comme un grand nostalgique. Bon, il avait des convictions très assumées.
Oui, il était caractériel, comme le dit le titre de son autobiographie, d'ailleurs, voilà. Caractériel.
Mais je pense que c'était c'est quelqu'un, moi, que j'ai toujours aimé lire quand il prenait des positions dans un certain nombre de journaux, notamment. Il avait l'occasion d'écrire des tribunes très engagées.
Oui,
et même si on n'est pas d'accord, c'est toujours intéressant de se nourrir de ça.
Oui, il était de droite, de la droite du général de Gaulle, de l'église au milieu du village, de l'ordre aimant qui règne dans les familles. C'est ce qu'écrit ce matin Sylvain Faure, ancien conseiller du président Macron, donc dans le JDD. Il était avec les bonnes tables, les bons vins, le goût mousquetaire de la polémique. Il était de la droite de la terre et des morts. C'est très beau.
Oui, mais c'est...
C'était lui.
C'est mieux dit par Sylvain Faure que je le disais moi-même. C'est ça que je pensais.
À suivre dans Soft Power. Porte-parole du gouvernement, un métier. Je reçois Gabriel Attal, mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, voici le box-office. Notre nouvelle séquence hebdomadaire proposée chaque dimanche avec nos partenaires, l'Institut d'études JFK pour les ventes de livres et de jeux vidéo et CBO box-office pour le cinéma, sans oublier le Billboard de la semaine et le Top 50 France de Spotify. Fiction pour commencer avec le top des ventes fiction de la semaine. On s'était habitué au duo Emmanuel Carrère et Amélie Nothomb qui dominaient le classement depuis la fin de l'été, mais l'été est fini maintenant. Il fait froid et gris sur Paris. C'est la saison justement préférée de Ken Follett, le maître gallois du roman historique. Son dernier livre, Le Crépuscule et l'Aube, est devenu un best-seller instantané. S'installe à la première place des ventes, une histoire de viking, d'anglais et de normand en l'an 1997, est le préquel de sa saga Les Piliers de la Terre, l'aventure des bâtisseurs de cathédrales. Jusqu'à présent, chaque tome s'était vendu autour de 300 000 exemplaires en France, au minimum. On va voir jusqu'où il ira cette fois. En non-fiction, finis les témoignages d'hommes politiques à la retraite, ce sont les femmes qui prennent le pouvoir. La voyageuse de nuit de la journaliste de Radio France, Laura Adler, s'installe à la première place des ventes, un livre sur la vieillesse, suivi par La mère parfaite est une connasse, je cite le titre, un livre comique écrit à quatre mains par les sœurs jumelles Girard. La voyageuse, la mère, la connasse, des figures de femmes puissantes qui ont également inspiré Léa Salamé. C'est le sujet de son livre d'entretien avec des personnalités féminines comme Christine Taubira, Leïla Slimani ou Amélie Mauresmo. Également un succès en librairie et à la quatrième place du classement cette semaine. Au cinéma, finalement, alors qu'on n'y croyait plus, une petite éclaircie. Après plusieurs semaines de chute consécutive, des entrées en salle, un gain de 11%. Enfin, même si Tenet est toujours premier, tutoie maintenant les 2 millions d'entrées en France, on doit s'être embelli à un bon score français. Antoinette dans les Cévennes, une comédie amoureuse sur une institutrice maladroite jouée par l'actrice Laure Calamy. Sélection du Festival de Cannes 2020, qui n'a pas eu lieu, on le sait, mais a tout de même décerné son prestigieux label. Le film fait presque 200 000 entrées pour sa première semaine. La réalisatrice s'appelle Caroline Vignal. Ce n'est que son deuxième film, mais elle confirme la tendance. Ce sont les femmes qui font vivre la culture cette semaine. En musique, rien ne change au royaume du Billboard. Cardi B, femme puissante, elle aussi demeure la reine incontestée des charts mondiaux. Elle a grandi dans une famille pauvre, dans les quartiers sud du Bronx à New York. Elle a été caissière puis stripteaseuse avant de percer, comme on dit, dans le rap. Son succès s'explique aussi par sa maîtrise des codes des réseaux sociaux. Ses vidéos Instagram sont toutes virales. Elle y lâche des commentaires sans filtre, assassins ou drôles, avec son fort accent typique du Bronx. L'une des priorités du moment pour Cardi B, c'est d'éviter la réélection de Donald Trump. Fan de Bernie Sanders, elle penche méchamment démocrate. Face à elle, Kanye West fait sa pub avec la carte inverse, méchamment républicain. Adorateur de Donald Trump et de Jésus, apparemment c'est un peu la même chose pour lui, Kanye West vient de confirmer son intention de se présenter à la présidentielle au nom d'un énigmatique birthday party. On croyait à une blague, mais il est en train de finaliser les documents administratifs pour se présenter dans une douzaine d'états, de l'Arkansas au Colorado, en passant par le Tennessee ou la Louisiane. Imagine-t-il gagner ? Non, bien sûr. Sinon,
prend quelques places peut-être au Billboard. Pour l'instant, les sondages lui donnent environ 2% des voix. Sa stratégie, adossée à celle de Trump, consiste seulement à siphonner les voix démocrates, en particulier chez les jeunes noirs démocrates, les millennials noirs, afin d'en priver Joe Biden. C'est machiavélique, pour sûr, en particulier si l'élection est serrée, et elle le sera sans doute dans certains swing states. Mais depuis qu'il a rencontré Jésus-Christ avec sa femme Kim Kardashian, Kanye West est devenu littéralement un peu fou. Dire qu'il a pris la grosse tête serait même un understatement. La femme du milliardaire du hip-hop s'inquiète d'ailleurs elle-même, c'est tout dire, pour sa santé mentale. Il serait bipolaire. Comme si un bipolaire dans la course présidentielle américaine ne suffisait pas, il y en a maintenant deux. Good morning, on this day we become legendary, everything we dreamed of. I'm like the fly Malcolm X, buy any jeans necessary. Detroit where it cleaned up, from the streets to the league, from an eighth to a key. But you graduate when you make it up out of the streets, from the moments of pain. Look how far we done came, haters saying you changed, now you doing your thing. France Culture, 18h48 précisément. Soft Power, l'influence, la culture, les médias, le numérique. Dans un instant, la suite de l'émission avec 19h15. Lou Wolf, chef du département d'études, de prospective et de statistiques du ministère de la Culture, nous parle des pratiques culturelles des Français. 19h30, le village global Ernesto Ottone, directeur général culture à l'UNESCO, revient sur la sauvegarde du patrimoine de la culture au Liban. Et tout de suite sur France Culture, porte-parole du gouvernement, un métier. Je reçois Gabriel Attal, secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, rebonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du gouvernement et notre invité ce soir, au moment d'ailleurs d'une double crise sanitaire et sécuritaire cette semaine. On l'a évoqué en début de programme. Je rappellerai cependant que cette émission était prévue en mai dernier. On avait dû l'annuler à cause du Covid. On n'a pas voulu la reporter une fois encore malgré l'attaque de ce vendredi et les nouvelles mesures anti-Covid annoncées en fin de semaine. On est un peu plus intemporel maintenant pour cette partie hors actualité, disons, sur le métier de porte-parole du gouvernement, un job entre la communication, les médias et la politique. Mais avant de parler du sujet, parlons un petit peu de vous, Gabriel Attal, en 5 dates. Quel âge avez-vous ?
J'ai 31 ans.
C'est un peu jeune pour un ministre.
Hein. J'ai été nommé au gouvernement à 29 ans. J'ai appris le jour de ma nomination dans la presse que j'étais le plus jeune membre d'un gouvernement de la 5e République. Je ne crois pas y être pour grand-chose, puisque je n'ai pas choisi la date de ma naissance.
C'est un avantage ou une faiblesse d'être un jeune porte-parole?
J'espère que ça n'est ni l'un ni l'autre. Je pense que quand on est jeune, que ce soit en politique ou ailleurs, dans tout milieu professionnel, je constate qu'il faut souvent en faire un peu plus que les autres pour montrer qu'on est crédible et qu'on est légitime. Et donc j'essaye de beaucoup travailler pour montrer que...
On dit ça aussi quand on est une femme, par exemple.
Oui, aussi, sans doute, probablement. Peut-être même davantage. Et donc j'essaye de travailler et d'être... là où on m'attend sur cette fonction qui n'est pas évidente.
J'ai dit 5 dates, vous venez du PS, c'est plutôt strauss-kahnien, l'aile droite du PS, ou alors on peut dire l'aile gauche du centre, comme vous voulez. Vous avez été au cabinet de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales de François Hollande en 2012. Vous êtes de droite ou de gauche?
Ah, moi, j'assume de venir de la gauche dans cette majorité qui rassemble...
Venir, c'est le passé aujourd'hui.
Oui, alors maintenant, si vous me posez la question à moi personnellement, oui, je me sens de gauche, évidemment. Après, ce qui est certain, c'est que j'ai rejoint Emmanuel Macron parce que je considérais qu'on pouvait travailler ensemble avec des personnes qui viennent de la gauche, qui viennent de la droite, qui viennent du centre, qui viennent, entre guillemets, de nulle part, en tout cas qui n'avaient pas d'engagement politique, autour d'un socle commun, qui était le programme qui a été porté par Emmanuel Macron. Et ça, je crois non seulement que c'est toujours d'actualité, mais que ça l'est encore davantage face aux crises que vous avez évoquées, la crise sanitaire, la crise économique. On a besoin de reconstruire le pays, le projeter dans l'avenir. Et pour moi, ça justifie encore plus que des personnes d'horizons politiques très différents se retrouvent pour travailler ensemble.
En tout cas, vous admirez la manière dont je vous ai posé la question. J'aurais pu être pervers et poser la question autrement. Par exemple, vous êtes de droite ou de droite?
Écoutez, moi, j'entends beaucoup ces critiques-là, y compris de copains, d'amis qui étaient engagés avec moi au Parti Socialiste. Mais quand je leur demande s'ils sont en désaccord avec le Ségur de la Santé qui a été annoncé cet été, qui prévoit 10 milliards d'euros de revalorisation salariale pour les personnels de l'hôpital. Est-ce qu'ils sont contre ? Ben non. Et moi, je peux vous dire qu'au Parti Socialiste, on en aurait rêvé d'un programme comme celui-là pour revaloriser de plus de 200 euros par mois les personnes qui travaillent à l'hôpital. Les 30 milliards d'euros qu'on consacre dans le plan de relance pour développer l'hydrogène, pour renforcer l'isolation de nos bâtiments, avec des aides financières à la clé pour tous les Français, pour leur permettre de mieux isoler leur logement, ça me semble aussi être une politique très sociale. Donc je crois que là, on est dans un moment très keynésien du mandat d'Emmanuel Macron avec le plan de relance. Et ça justifie encore davantage, pour ceux qui viennent de la gauche, de se retrouver dans ce qui est fait.
Vous adhérez à En Marche dès 2016, précocement donc, et devenez député des Hauts-de-Seine. Déjà porte-parole de République En Marche, vous êtes nommé secrétaire d'État en 2018 en charge de la jeunesse, le plus jeune ministre de la Ve République, vous l'avez dit. Est-ce que vous connaissez le lien entre En Marche et la poésie ?
Je vous écoute avec beaucoup d'attention.
Alors d'abord, c'est Victor Hugo, l'expression En Marche, revient à trois reprises, notamment dans les Contemplations, puisque c'est le titre de la cinquième partie de Contemplations. Donc peut-être qu'Emmanuel Macron, littéraire, l'avait lu là. Et puis on retrouve aussi chez Rimbaud, trois reprises chez Rimbaud, dans Une saison d'enfer, dans Mémoire, ainsi que dans la lettre dite Genf 72. Voilà, vous avez finalement un président lettré, c'est ça qu'on pourrait dire.
Mais ça, c'est pas une nouvelle, ça on le savait.
Voilà, maintenant vous pourrez un peu de poésie dans ce monde de brut.
Absolument.
Maintenant vous le saurez.
Ravi de l'apprendre.
2020, cet été donc, avec le nouveau gouvernement Jean Castex, vous héritez du poste très exposé, Sipeth Ndiaye n'a pas survécu à cause des masques, poste dans le gouvernement, donc de porte-parole du gouvernement, c'était la cinquième date. Je vous propose de l'écouter, non pas pour la critiquer, mais pour comprendre comment ça se passe quand on est porte-parole du gouvernement et qu'on doit très souvent répondre rapidement.
Vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. Bah, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif.
Vous savez, pendant la crise du coronavirus, en tout cas le temps que moi j'ai été en fonction, j'ai compté, j'ai fait 90 apparitions médiatiques en 6 mois. Je n'aurais jamais la prétention de dire que sur 90 apparitions médiatiques, en comptant les interviews, les matinales, les conférences de presse, que je n'ai jamais fait d'erreur. Et donc, à titre personnel, oui, j'ai eu des phrases qui étaient maladroites, qui, parce qu'elles étaient alambiquées, parce que les exemples étaient mal choisis, je pense en particulier à une polémique sur les enseignants à un moment donné, étaient inadéquates. Je l'ai d'ailleurs reconnu immédiatement, parce que j'estime que quand on est responsable politique, il faut toujours reconnaître ses erreurs. Et donc, en l'occurrence, quand j'ai eu des phrases qui étaient des phrases inadéquates, malheureuses, maladroites, je crois que j'ai en tout cas essayé de systématiquement le dire.
Un mot sur l'échec de votre prédécesseuse, Gabriel Attal.
Ça a été très difficile pour Sipeth Ndiaye d'être porte-parole dans cette première vague épidémique au moment où on découvrait ce virus, où il fallait répondre aux questions, où il fallait commenter ce qui se passait, alors qu'on était aussi confronté dans le débat public à l'irruption de ce qui a toujours existé.
Mais ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé le juste milieu finalement entre la communication politique et la communication scientifique ?
Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'on a tous, quand je dis on, c'est aussi moi, peut-être vous, arriver dans le débat public quelque chose qui existe depuis toujours, qui est la controverse scientifique. La science, elle a toujours progressé par du débat, de la controverse entre des scientifiques. Et là, parce que c'était le coronavirus, parce que ça concernait tout le monde, on a vu ce dialogue-là se faire dans les médias grand public. Et c'est vrai que c'était très difficile du coup d'expliquer les choix que nous faisions quand vous aviez des scientifiques qui disaient entre guillemets l'inverse de ce qui était porté par le gouvernement. Ça a été très difficile pour elle. Elle a pu faire des erreurs, elle l'a dit, elle l'a reconnu à ce moment-là. Mais moi, en tout cas, ce que je lui reconnais, c'est d'abord un vrai courage, parce qu'il fallait y aller, faire ces 90 interventions à des moments de crise extrêmement forts et sans parfois avoir les solutions à présenter aux Français, puis une loyauté absolue au président de la République, et ça me semble nécessaire à cette
loyauté,
fonction.
Loyauté, c'est un des codes du métier, on pourrait dire. Lorsque vous avez été nommé secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, vous avez annoncé tout de suite, dès cette nomination, que vous vous rendriez en région chaque semaine. Vous voulez être, comment dire, un peu une sorte de porte-parole autant et
dans l'espace des territoires.
Oui, parce que et je fais pas, ce n'est pas une injure à cette maison que de le dire sur les.
Surtout qu'on a France Bleu,
pour ce qui est des enseignes nationales, puisqu'il y a France Bleu. Mais je pense que quand on fait la somme de ceux qui écoutent les matinales nationales ou regardent les programmes politiques nationaux, on n'arrive pas à la majorité des Français. Beaucoup de Français s'informent à travers la presse quotidienne régionale, en regardant leur France 3 régionale, en écoutant leur France Bleu départementale. Et donc, moi, effectivement, je souhaite être aussi présent dans ces médias-là. Et donc, au moins une fois par semaine, je pars 24
mais
heures en province.
Mais ce n'est pas des annonces qu'on fait quand on arrive et au bout de quelques mois, l'agenda ne permet plus d'aller une fois par semaine en province.
Pour l'instant, ça fait, j'essaie de calculer, juillet, août, septembre.
Enfin, il y a eu l'été.
Ça va faire 4 mois.
Donc, ça fait 3 semaines.
Ouais, je me suis déplacé toutes les semaines pendant l'été aussi.
Est-ce que vous voyez, comment vous voyez votre fonction de porte-parole, je dirais, en mode de crise permanente?
Bah, c'est très difficile. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir une humilité. Voilà. Moi, je suis pas là pour donner des leçons. Je suis là pour donner des informations. Et je pense que
officiel.
Oui, officiel. Expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, la sincérité. Je pense qu'il faut savoir dire quand on ne sait pas. Personne n'est un surhomme.
Et en même temps, c'est très risqué. Un mot de travers, vous l'avez dit, je vous cite, et vous pouvez faire dévisser la bourse ou déclencher une crise diplomatique.
Oui, c'est vrai. En fait, ça, c'est quelque chose que je mesure depuis que j'étais nommé porte-parole. J'étais auparavant au gouvernement, je m'exprimais régulièrement dans les médias.
Mais c'était sur des sujets jeunesse, donc...
Où je m'exprimais aussi sur d'autres sujets. Là, je ne me privais pas. Mais pour le coup, ça engageait ma parole. Maintenant, je parle au nom du gouvernement. Et donc, c'est vrai que je mesure que la parole change de nature. Et que si je dis une bêtise, ça peut arriver. Pour l'instant, je crois que ça ne m'est pas arrivé. Mais ça peut arriver à un moment.
Peut-être ce soir, on va
peut-être
essayer.
Peut-être ce soir, on va voir. Ça peut avoir un impact important.
Comment on prépare Comment on arrive à être bon sur tous les sujets?
Alors, justement, je disais à l'instant qu'il fallait avoir la sincérité de dire parfois qu'on ne sait pas répondre à une question.
Voilà. Ouais, mais à un moment, il faut
répondre.
Vous entendez
parler tout à l'heure des blocs en mégahertz sur la 5G. Je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là. Et donc, si vous m'aviez interrogé pour savoir combien est-ce que de blocs étaient mis en vente et combien on vendait le mégahertz, j'aurais eu l'honnêteté de vous dire que je n'avais pas la réponse à cette question. Non, il faut évidemment travailler. Alors, moi, je me lance jamais dans une interview ou dans une intervention sans avoir... lu des notes, rencontrer des personnes qui travaillent sur le sujet pour comprendre non seulement ce qu'on fait, mais surtout pourquoi on le fait et d'où vient la décision. Et en fait, quand on est porte-parole, il y a tout ce qu'on voit, ce que les gens voient, c'est-à-dire mes interventions dans les médias. Puis après, il y a toute la préparation et notamment le fait que je participe à quasiment toutes les réunions d'arbitrage qui ont lieu autour du président et du premier ministre et qui associent différents ministres, justement pour voir comment est-ce que les choses se décident et puis aussi... peser, puisque quand je suis dans une réunion, c'est aussi pour dire ce que je pense.
Quel cabinet faut-il? C'est-à-dire, quels sont les conseillers que vous devez avoir? Comment vous les choisissez? C'est des communicants ou alors il y a de la technique? Il y a des aspects plus, régaliens, moins régaliens?
J'ai vraiment de tout. Donc j'ai 8 conseillers dans mon cabinet. J'ai une directrice de cabinet, ce qui n'est pas la majorité des directeurs de cabinet encore, qui a un profil de terrain, puisqu'elle était prof d'histoire géo dans un lycée. C'était ma directrice de cabinet quand j'étais secrétaire d'État à la jeunesse, elle m'a suivi. Donc, sur toutes les questions de fond, elle peut travailler ses dossiers, etc., et m'aider à les préparer. J'ai un directeur adjoint de cabinet qui, lui, vient plutôt de l'univers des sondages et de l'opinion, parce que c'est aussi important. Puis après, j'ai un conseiller en communication qui vient du secteur de la communication, et puis d'autres profils, un profil qui vient plutôt du régalien et du ministère de l'Intérieur. Donc j'essaye d'avoir cette diversité de parcours.
Comment est-ce qu'on vit personnellement le fait qu'on vous pose toujours des questions complexes et pièges finalement, et très rarement des questions positives?
Oui, c'est aussi une spécificité de cette fonction, c'est qu'en général, quand il y a des bonnes nouvelles à annoncer, les ministres les annoncent eux-mêmes et ils n'ont pas besoin de moi pour ça.
Donc on vous laisse les mauvaises réponses.
On va dire ça comme ça. Donc c'est sûr que on m'envoie rarement avec une pression importante sur des médias quand les choses vont très bien. Ça, il faut se le dire dès le départ. Mais bon, je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut se déplacer, aller sur le terrain. Moi, je me rends compte que quand je vais sur le terrain, on arrive beaucoup mieux à parler de ce qui fonctionne parce qu'on arrive aussi à le montrer et à le donner à voir. Et donc, je pense que c'est un peu la clé de cette mission.
Un métier en alerte permanente, même la nuit, même le week-end, même pendant les vacances, tout le temps?
Oui, là, je vous confirme qu'il faut rester branché. On peut quand même prendre un peu de recul. C'est ce que j'ai essayé de faire cet été, même si je me suis déplacé une fois par semaine pendant mes vacances. Mais c'est sûr qu'il faut toujours savoir ce qui se passe et être alerté.
Vous êtes placé auprès du Premier ministre ou auprès d'Emmanuel Macron?
Je suis auprès du Premier ministre.
Ça ne m'avait pas échappé, mais vous comprenez le sens de ma question.
Ouais, je suis placé auprès du Premier ministre, mais je suis loyal et fidèle au président de la République.
On dialogue par SMS constamment avec le Premier ministre et le président pour vérifier telle position, telle ligne, parce qu'on travaille pour eux. On travaille essentiellement pour répercuter leurs paroles, non ?
Oui, constamment, je dirais pas ça. Moi, j'essaye de pas les déranger, sauf quand c'est vraiment des sujets très sensibles, où là, je veux vraiment avoir le point de vue du président ou du premier ministre. Sinon, ils ont une équipe, et mon équipe est en dialogue avec la leur. Il y a un moment qui est important pour moi dans la semaine, c'est au moment du Conseil des ministres, puisque je fais le compte-rendu du Conseil des ministres juste après, et les journalistes peuvent me poser des questions sur tout. Et entre le Conseil des ministres et cette conférence de presse, je prends toujours une quinzaine, une vingtaine de minutes avec le président de la République, justement pour voir avec lui les différents sujets que je vais aborder.
On a son libre arbitre. On aimerait l'avoir.
Si vous demandez si on a son libre arbitre sur les sujets qu'on défend, non. Moi, je suis solidaire de l'action gouvernementale. Il peut y avoir tel ou tel sujet avec lequel je suis en désaccord, mais en tout cas avec lequel je me sens frileux, c'est sûr. Mais je considère que je suis solidaire de l'action de mes collègues et que donc je défends après. Moi, s'il y a un libre arbitre que je veux essayer de garder, et ça, je pense que ça renvoie aussi au début de cet échange et à ce qu'on a pu voir pendant la crise du coronavirus avec ma prédécesseure, c'est avoir le libre arbitre des arguments que j'utilise. Je pense que, moi je le vois sur des sujets, et notamment quand il y a des enjeux très urgents, il y a beaucoup de personnes qui vous disent ce qu'il faut que vous disiez. Et je pense qu'il faut toujours avoir le recul et de faire le tri des arguments qu'on va utiliser, parce que parfois on se rend compte que c'est peut-être de très bons arguments pour des conseillers ou des personnes qui sont assez loin du contact des gens. Et quand vous les utilisez, tout de suite, ça passe pas.
Donc les mots sont les vôtres, même si les idées, ou disons la ligne n'est pas la vôtre.
Bah, la ligne est la mienne, puisque encore une fois, moi je crois profondément à ce qu'on fait. Et pour le coup, si je croyais pas profondément au projet du président de la République et
à son action... On peut pas croire en tout.
Je vous ai dit qu'il y a certains points sur lesquels je pouvais parfois avoir des doutes, mais l'important, c'est le projet aussi, et là, on veut emmener le pays.
Alors, ces dernières semaines, depuis vos nominations, vous avez consulté vos prédécesseurs, je crois Jean-François Copé, Valérie Pécresse, Luc Châtel, Stéphane Le Foll, François Baroin, qui a été d'ailleurs deux fois titulaire du poste, je pense aux Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Vous avez vu aussi Christophe Castaner, Benjamin Griveaux, et on l'a dit, Sibeth Ndiaye. J'aimerais qu'on revienne un peu à un certain nombre de porte-parole, de voir comment dans l'histoire la fonction a évolué. Et c'est d'ailleurs le sujet de cette émission, puisque Soft Power, ça s'intéresse, cette émission qui s'intéresse notamment à la communication. On va en écouter quelques-uns et puis je vous demanderai de réagir aux uns et aux autres. Je vous propose de commencer, alors on remonte un peu dans le temps, il n'était pas officiellement porte-parole, mais il assumait cette fonction-là. C'était le porte-parole et ministre de l'Information, Alain Perfit, au sujet de la création de l'ORTF, précisément l'Office de Radiodiffusion Télévision Française. Le 25 juillet 1964, l'ORTF était en partie l'ancêtre de Radio France.
Il fallait d'abord que la radio-télévision cessât d'être fonctionnarisée et de dépendre directement d'un ministère comme une quelconque direction administrative. Il fallait lui donner l'autonomie, à la manière, par exemple, de la SNCF, dont le secrétaire général siégera parmi vous. Il fallait ouvrir les fenêtres de la maison, toutes grandes, pour y accueillir ce qu'il y a de meilleur en France, notamment dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, des variétés, du cinéma, du reportage, de manière à l'aérer par tous les courants de la pensée, de l'opinion, de l'événement. Il fallait restaurer l'autorité interne de la maison. Il fallait y bâtir des structures et y introduire des règles de fonctionnement comparables à celles des grandes entreprises industrielles et commerciales où la règle d'or est le rendement.
Alain Perfit, à l'instant, c'était à l'époque du général de Gaulle, il était ministre de l'Information. Là, c'est assez littéraire d'ailleurs, assez ampoulé aussi comme style, très officiel.
Oui, c'était à l'occasion d'une intervention comme un discours, et c'est vrai que ça renvoie à une manière de parler qu'on entend un peu moins aujourd'hui. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé avec Alain Perfit, je disais tout à l'heure que j'en avais parlé avec un journaliste qui l'avait connu, c'est qu'il s'est aussi saisi de cette fonction et de la proximité qu'elle lui donnait avec le président d'alors, comme un moyen plus tard de faire le récit de cette présidence, puisqu'il a sorti, il a publié un livre, c'était De Gaulle, qu'il a nourri d'anecdotes et de faits qu'il a pu récolter à l'occasion de cette fonction, et parce qu'elle donne une vraie proximité avec le président. Je ne dis pas que c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour l'avenir, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important.
Donc vous annoncez que vous êtes en train d'écrire un livre, c'était Macron. Porte-parole du gouvernement Max Gallo, on est sous François Mitterrand, c'est en avril 82, et c'était au sujet d'un plan de lutte contre la drogue présenté au début donc du septennat de Mitterrand.
55% des personnes présentées au parquet de Paris sont de jeunes drogués. Cette situation ne peut absolument pas se prolonger. Il s'agit, quelles que soient les mesures du plan de rigueur, de consacrer les sommes qui sont nécessaires à cette lutte contre la drogue. Et le président de la République a demandé à Monsieur le Premier ministre de faire une priorité de cette lutte. En un mot, dans cette bataille contre la drogue, il faut se fâcher. Il y va de l'avenir d'une partie importante de notre jeunesse.
Toujours sous François Mitterrand, notre porte-parole, ce coup-ci c'est Georgina Dufoy, c'est en novembre 1985, elle réagit au projet de loi sur la suspension immédiate du permis de conduire en cas d'ivresse. Écoutez-la.
Le conducteur est arrêté, la voiture est immobilisée et le permis de conduire est retiré par l'agent de la force publique jusqu'à 72 heures. C'est le temps qui est nécessaire pour faire la prise de sang immédiatement et puis ensuite pour l'analyser. Au vu des résultats de l'analyse de sang, le préfet, donc décision administrative, prendra sa décision sans consulter la commission de suspension du permis de conduire. Et ça, il peut le faire jusqu'à 6 mois de rétention. Au-delà, c'est bien entendu la commission de retrait du permis de conduire qui est compétente. Dans le cas où le conducteur est seul ou dans le cas où il est seul avec quelqu'un qui ne peut pas conduire, la voiture reste sur le bord de la route.
Voilà, la voiture reste sur le bord de la route. Que ce soit Max Gallo ou Georgina Dufoy, c'est vraiment pédagogique. On essaye d'expliquer des projets de loi, que ce soit sur la drogue ou sur le permis de conduire en cas d'ivresse, qui sont parfois un peu mal perçus dans l'opinion et complexes.
Oui, d'ailleurs, je me disais en les écoutant qu'il faudrait voir dans quel contexte ces interventions ont eu lieu, parce qu'aujourd'hui, sur la présentation de projets de loi qui ont trait à de tels sujets, je verrais mal le ministre de l'Intérieur, je ne parle pas forcément de l'actuel, mais un ministre de l'Intérieur les laisser, entre guillemets, à un porte-parole. C'est aujourd'hui des sujets qui sont tellement centraux dans la gestion de ce ministère qu'on imagine davantage le ministre présenter ses...
Alors après, Georgina Dufoy, elle était aux affaires sociales.
Aux affaires sociales,
il y a l'ivresse.
Voilà, ça peut rentrer dedans.
Ce
qui est intéressant sur ces deux porte-paroles, c'est d'abord que, moi je crois que le choix de Max Gallo, c'était pour le coup... une ambition de faire de cette fonction de porte-parole un des éléments du récit, parce que c'était le choix d'un historien, du récit et du sens du quinquennat. C'était, je pense au départ, s'il a choisi Max Gallo, moins une volonté de répondre sur l'actualité du quotidien et les petits sujets que de donner de la perspective au récit. Et pourtant, on voit bien qu'en tant que porte-parole, on est vite rattrapé par des sujets très concrets comme c'était le cas. Puis Georgina Dufoy, je crois que c'est la première femme à avoir occupé cette fonction. Ça me semble aussi important.
Jean-François Copé était porte-parole du gouvernement en 2003 et là il intervient au sujet de la réforme des retraites voulue par Jacques Chirac. Alors vous allez voir, il cite beaucoup le président de la République.
Le président de la République a indiqué que la retraite par répartition assure la solidarité entre Français actifs et retraités. C'est, a-t-il dit, un acquis intangible. J'en suis, a dit le président de la République, le garant. Le président de la République a particulièrement insisté sur la situation des Françaises et des Français les plus modestes.
Là, il y a vraiment un côté porte-parole au sens où il cite presque le communiqué avec, entre guillemets, on a presque les citations « a dit le président de la République comme il l'a dit », etc.
Ça, à l'oreille, je me dis que ça devait être dans un compte-rendu de Conseil des ministres, puisque moi, c'est vrai que je commence toujours mon compte-rendu par un récit du propos liminaire du président de la République en début de conseil. D'ailleurs, les journalistes attendent beaucoup ce moment parce que ils utilisent ensuite pour leurs articles les propos qui sont rapportés du président. C'est toujours important de dire clairement quand les propos sont ceux du président.
Alors parfois, il y a des situations de crise. Une qui concernait Nicolas Sarkozy notamment, c'est le porte-parole, ce coup-ci David Martinon. C'est au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, en août 2007, au sujet de la convocation de Cécilia Sarkozy par la commission d'enquête parlementaire sur la Libye de Kadhafi. On écoute David Martinon.
Madame Sarkozy s'exprimera quand elle le souhaitera. C'est sa liberté. Elle n'a de compte à rendre à personne. Première dame de France, c'est pas une fonction. Si vous voulez parler de la commission parlementaire. Le président de la République, lui, est très soucieux de communiquer toutes les informations qu'il a eues et qu'il a en sa possession. Pour autant, il paraît inconstitutionnel qu'il puisse répondre à la commission d'enquête parlementaire, puisque ce serait une entorse ou une atteinte au principe de séparation du pouvoir. Par extension, Madame Sarkozy, puisqu'elle était son envoyée personnelle, tombe sous la même règle. En revanche, M. Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, lui, est tout à fait à même de parler au nom des trois, et à vrai dire, il est impatient d'éclairer la représentation nationale sur l'histoire de cette mission qui a été, je vous le rappelle, un succès éclatant.
Alors, je ne sais pas si ça vous arrivera, mais c'est très compliqué, puisque quelques semaines après, David Martinon doit à nouveau réintervenir, toujours à propos de Cécilia Sarkozy, mais ce coup-ci, c'est au moment du divorce. On l'écoute.
Je n'ai aucun commentaire à faire sur cette question. Aucun commentaire. Vraiment, 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 je vous assure, je n'ai aucun commentaire à faire sur ce sujet-là.
Alors, il avait de l'humour, David Martinon. C'est son célèbre no comment, au fond, qui revenait sans cesse. C'était presque devenu un tic et peut-être même un style de langage.
Oui, bah, je vais essayer d'en trouver un autre. David Martinon, il était porte-parole de l'Élysée. Il n'était pas porte-parole du gouvernement. Je pense que c'est un peu différent. Je pense que quand on est porte-parole de l'Élysée, on est davantage...
Mais par exemple, il n'y a pas en ce moment, donc au fond... Il n'y a pas vraiment de porte-parole de l'Élysée.
Ah non, aujourd'hui, il n'y en a pas.
Donc ça revient un peu au même.
Je fais les deux. Mais je crois qu'à l'époque de David Martinon, il y avait un porte-parole du gouvernement.
Ça a changé plusieurs fois.
Et donc je pense qu'effectivement, il avait plus à s'exprimer sur le Nicolas Sarkozy en tant que président que sur la politique menée par le gouvernement, ce qui du coup lui valait des questions un peu difficiles auxquelles il ne pouvait pas répondre.
Comment est-ce que on réagit, par exemple, quand vous entendez l'expression « l'ensauvagement », on réagit comment on doit tout à coup se dire on peut pas trahir la parole du ministre de l'Intérieur, on doit prendre ses distances.
Ah non, non. Enfin, moi, je suis, entre guillemets, rattaché au Premier ministre et loyal au président de la République. Mais
on ne le sait pas forcément à l'avance qu'il va y avoir ce type de polémique ou de formule.
Je peux vous dire, ça ne fait pas plaisir parce qu'on se retrouve à devoir commenter de la forme plutôt que du fond. Parce que c'est ça qui s'est passé quand même. Il y a une seule ligne sur le sujet au gouvernement. Sur le fond, tout le monde est d'accord. Et on a eu l'impression d'assister à une partie de Scrabble pendant deux semaines où il y avait des ministres qui s'écharpaient sur un mot, et ça, je vous avoue qu'en tant que porte-parole, c'est pas très agréable de devoir commenter ça parce qu'on a plutôt envie de dire ce qu'on fait plutôt que ça. Mais je suis pas sûr que ça soit la dernière fois.
J'avais une réponse dans ce cas-là, vous auriez pu dire, vous savez, l'expression vient de Thérèse Delpech, chercheuse qui n'est pas du tout d'extrême droite et dont le livre s'appelle L'ensauvagement, le retour de la barbarie au XXIe siècle. C'était publié en 2005.
On parlait plutôt d'Aimé Césaire aussi.
On aurait pu aussi, mais c'était pas exactement l'ensauvagement. Est-ce qu'il vous reste du temps libre? Comment ça se passe la vie de Gabriel Attal qui travaille le matin, la nuit, le soir, le week-end? Je sais pas, vous avez le temps de lire des livres? Vous avez lu des livres récemment?
Alors, pendant l'année, on lit plus de notes que de livres, que de romans, ça je vous le dis. Mais pendant l'été, les vacances, quand ça arrive, oui, on peut.
Vous avez lu quoi, par exemple, récemment?
Alors, cet été, j'ai lu un roman de Kazuo Ishiguro qui s'appelle Auprès de moi toujours. J'ai lu le livre de Nicolas Sarkozy, parce que c'est aussi important. Là, on est à la frontière entre les deux, on est entre les vacances et puis le travail.
Je croyais que vous alliez dire entre la littérature et la politique.
Et j'ai commencé, que je n'ai pas pu le terminer, j'espère que je le terminerai prochainement, un livre de Cody, Disgrâce.
L'écrivain australien, c'est ça, d'origine sud-africaine. D'origine sud-africaine. C'est comment on refait sa vie. C'est aussi un livre, je crois, sur la défense des animaux, au passage.
Ça parle beaucoup de défense des animaux, mais c'est sur la société sud-africaine post-apartheid.
On avait dit à une époque, et ça revient dans une enquête du Monde ce week-end, que Nicolas Mathieu, vous savez, le Goncourt 2018, pour son livre, dans lequel il racontait sans juger la vie des oubliés et de la mondialisation, les renégats de la France périphérique, était adoré par les macroniens qui le lisaient. C'est vrai?
J'avais lu ça aussi.
Mais pas le livre.
Comment? Non, je n'avais pas lu le livre. Et je pense que ça a été beaucoup utilisé, je me souviens, pour dire... certains voulaient donner le sentiment que la Macronie avait besoin d'un livre pour découvrir les problèmes sociaux dans notre pays, ce qui n'est pas le cas. Et donc, j'avais été assez mal à l'aise avec ces articles auxquels vous faisiez référence.
C'était une enquête du Monde qui est reprise d'ailleurs ce week-end à ce sujet, et notamment sur le rôle de Nicolas Mathieu dans les réseaux sociaux post-Gilets jaunes, puisqu'il les défendait beaucoup, et d'ailleurs il est assez anti-macronien. Des séries télé?
Beaucoup de séries télé aussi. Alors là, pour le coup, moi, je j'entre dans des anecdotes très personnelles, hein, mais j'ai du mal en rentrant chez moi à me coucher tout de suite. J'ai besoin d'un sas entre le boulot et le dodo, comme on dit. Et donc je regarde en général un épisode d'une série, absolument.
Par exemple ?
Il y en a beaucoup.
The West Wing, pour faire un peu de politique, ou House of Cards.
J'ai adoré West Wing, mais je trouve que
c'est un peu daté.
C'est terrible, maintenant. Parce qu'en quelques années, c'est devenu très daté, parce que c'était juste avant
alors les c'est plutôt
sociaux,
Baron Noir, maintenant.
Baron Noir, j'ai beaucoup aimé, évidemment, mais aussi des séries qui ne sont pas du tout politiques, ou qui le sont indirectement. Je pense à La Servante Écarlate, Handmaid's Tale, que j'ai regardé, qui est une série très forte. Big Little Lies, qui est une très belle série américaine. Voilà.
Vous avez des œuvres d'art, dit-on, dans votre bureau, prêtées par la galerie Nathalie Obadia. C'est lesquelles ?
Alors, j'ai une très belle toile d'une artiste qui s'appelle Carole Benzaken, et une toile d'un artiste français aussi qui s'appelle Benoît Maire. Voilà.
Ça, c'est un souvenir de la période où vous étiez à la Villa Médicis, je crois, auprès de qui ? Éric de Chassé.
Éric de Chassé.
De Chassé, oui. Pardon, pour stage ou je ne sais
c'est
pas pourquoi.
C'est vrai que j'ai travaillé pendant un an à ses côtés à la Villa Médicis et qui m'a fait découvrir l'art contemporain. J'avais travaillé avec lui à une exposition qui s'appelait Les Mutants sur l'identité culturelle en Méditerranée avec un certain nombre d'artistes contemporains de pays autour de la Méditerranée. Et c'était une expérience vraiment très enrichissante pour moi et j'en ai gardé quelques restes.
Je crois que vous devez rejoindre le président de la République, donc on ne va pas vous retenir très très longuement puisque vous êtes attendu à l'Élysée. Une dernière question quand même, vous avez été dénoncé, outé hein, pour votre sexualité il y a quelques temps, sans revenir sur cette polémique, c'était clairement homophobe, vous n'avez jamais répondu à ça, c'était un choix.
Alors moi j'ai pas du tout eu le sentiment d'être outé pour la bonne et simple raison que j'ai jamais eu le sentiment de cacher quoi que ce soit. À chaque fois qu'on m'a posé des questions sur ma vie privée, j'ai toujours
Mais ça avait pas été dit... le cas tellement si.
Bah si, ça avait été le cas, donc c'était pas une révélation, enfin en tout cas pour celui qui l'a faite, il avait le sentiment que c'était une révélation, mais il y avait derrière ça plutôt une attaque sur ma proximité, etc.
Mais oui, promotion canapé qui, oui, est, qui voilà. Est pour le coup était très homophobe.
Mais... Qui était très homophobe, mais non moi je.
Et comment vous voyez les évolutions finalement? Sur ce sujet, je ne sais pas, de Bertrand Delanoë en passant par Ayagon, Frédéric Mitterrand, Renaud Donne-Dieu de Vabre, Franck Riester. D'ailleurs, tous, ils ont fini ministre de la Culture. Donc, je ne sais pas si ce sera votre cas.
Enfin, moi, je pense que quand on est en politique, en tout cas, c'est mon cas, et qu'on est homosexuel, on est toujours tiraillé entre deux choses. D'un côté, je pense que c'est important de le dire, surtout quand on nous en parle, parce que je pense que pour beaucoup de jeunes qui ont des difficultés dans leur famille ou avec des proches, je pense que c'est utile de pouvoir de voir et qu'on peut le vivre bien, qu'on peut le dire sans problème et que y compris pour certains jeunes vis-à-vis de leurs parents montrer qu'il y a des membres du gouvernement qui sont homosexuels. Je pense
et
que,
même un porte-parole.
Ouais. Ben non, mais enfin voilà. D'un côté il y a ça et de l'autre se dire qu'à chaque fois qu'on en parle et qu'on en fait une forme d'événement. Bah finalement, ça accrédite aussi l'idée que c'est toujours pas normal. Et moi, je suis souvent tiraillé entre ces deux choses. J'ai hâte du jour où on n'en parlera plus parce que ça sera plus un sujet, parce que tout simplement, ça sera devenu quelque chose de très banal. Et je constate que mes collègues du gouvernement qui sont hétérosexuels, on leur demande assez peu de commenter le fait qu'ils sont hétérosexuels.
Ils sont pas outés non plus, hein,
voilà,
en tant qu'hétérosexuels.
C'est ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai aucun problème à en parler. Comme
et Bertrand Delanoë, c'était un moment, un premier moment fort, vous pensez ?
Oui, je pense. Alors, moi, j'étais très jeune à l'époque, donc je me souviens pas spécialement de la manière dont
c'était
il
l'avait
fait.
C'était sur M6, je crois.
Voilà, je m'en souviens pas, mais oui, je pense qu'il a aussi libéré une forme de parole sur ce sujet-là et que c'était important.
Merci infiniment, Gabriel Attal, d'avoir été notre invité ce soir pour parler de différents sujets, et notamment du métier, puisque c'est aussi un métier, même si vous avez dit que ça ne l'était pas forcément, porte-parole du gouvernement.
Merci à vous.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Séquence maintenant d'actualité culturelle et de pratique culturelle avec Lou Wolf, chef du département d'études, de prospective et de statistiques du ministère de la Culture et Zoé Sfez à mes côtés. Bonsoir Lou Wolf.
Bonsoir Frédéric.
Vous êtes donc le chef du DEPS, je l'ai dit, ce département qui s'occupe des statistiques. C'est quoi son historique et ça sert à quoi ce petite direction du ministère de la Culture ?
Alors oui, c'est au ministère de la Culture. C'est un service ancien en fait, hein, qui a eu plusieurs noms, qui s'est appelé Service Études et Recherches, qui s'est appelé DEP, aujourd'hui DEPS. Enfin, peu importe, à la limite, il a
fondé par Augustin Girard.
Voilà,
c'est
fondé
ça
par Augustin Girard, qui est une grande figure de la connaissance de la culture en France qui a accompagné aussi bien les premiers travaux de Pierre Bourdieu que de beaucoup d'autres sur les sujets sur ces sujets qui ne sont d'ailleurs rarement que des sujets culturels mais sont souvent des sujets de société et qui parlent de la société française dans son ensemble.
Lorsqu'on prend les études, et on va revenir sur celles que vous venez de publier il y a quelques semaines, le résultat 2020, qui porte d'ailleurs sur des statistiques d'avant le Covid, c'est pourquoi on n'a pas encore les données de ce qui s'est passé cette année. En termes de méthodologie, il y a plusieurs, les Américains utilisent le census, c'est-à-dire au fond le recensement national. Vous, vous utilisez plutôt des sondages. Comment vous voyez cette différence de méthode sur l'obtention des informations concernant les pratiques culturelles des Français ?
Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes. La France fait partie des pays qui développent les dispositifs les plus complets pour rendre compte de ces enjeux, avec une enquête, donc, comme vous l'avez dit, par sondage, mais arrimée au recensement de la population française, construite en lien direct avec l'INSEE. Et qui s'impose comme un dispositif à la fois très important en France, parce que on a peu de dispositifs avec une telle profondeur historique qui remonte aux années 70, avec une telle cohérence dans le temps, et qui s'impose aussi au niveau international, parce que là aussi, les pays qui se sont dotés d'outils comme cela sont pas si nombreux. Alors, les États-Unis, bien sûr, on a aussi, bien sûr, on discute pas mal avec nos collègues britanniques.
Les statistiques européennes, j'imagine.
Et la statistique européenne. Alors, même si le paysage des statistiques culturelles dans le monde est encore très divisé, parce que ça ne fait pas partie des...
Chacun a ses critères et ses informations. Zoé Sfez.
Alors, ça, c'est la fameuse enquête décennale sur les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. Elle est souvent assez attendue. On l'attendait avec ferveur en mai. Malheureusement, le mois de mai a été ce qu'il a été. Il me semble que l'enquête que vous publiez cette année, donc qui rend compte de ce que vous avez pu constater sur les 10 dernières années, c'est très important, est d'une certaine manière presque une enquête de rupture. On a cette impression, vous allez nous en donner les principaux enseignements. Est-ce qu'on est véritablement en 2020 sur une rupture plus importante que les précédentes, puisqu'il y en a eu combien ces enquêtes décennales? Il y en a eu déjà 4 ou 5
4, 6.
6, voilà, 6, c'est la sixième.
6, la première date de 1973, et donc c'est la sixième. Et effectivement, les résultats qu'on a publiés dans le courant de l'été, finalement, enfin début juillet, exploitent à la fois ce qui se passe dans ces 10 dernières années, mais aussi en le mettant en regard avec le temps plus long d'un demi-siècle d'évolution des pratiques culturelles. Et en fait, c'est un double constat à la fois d'évolution extrêmement structurelles qui se sont construites dans le temps long de notre histoire collective. Mais effectivement, ces 10 dernières années sont aussi 10 années de rupture avec, on va en venir en détail, hein, mais avec notamment la montée en puissance du numérique dans nos quotidiens qui a des effets très, très, très tangibles sur ce que sont nos pratiques aujourd'hui.
Alors Lou Wolf, justement, prenons quelques-uns des principaux résultats de l'enquête 2020.
Alors, les résultats principaux qu'on retire de cette étude et qui méritent d'être prolongés, hein. En fait, cette première publication n'est que le début de plusieurs années d'exploitation qui vont associer largement les milieux académiques. Premier résultat, le constat d'une place croissante de la culture dans le quotidien des Français.
Donc ça, c'est positif, optimiste.
Voilà, on peut le dire, oui, d'une certaine manière. Donc, et de la culture sous des formes diverses, c'est-à-dire la culture audiovisuelle, la culture numérique, bien sûr, on l'a dit, qui a pris une place très importante très rapidement ces 10 dernières années, mais aussi la culture de sortie, de fréquentation des lieux culturels, du spectacle vivant et du patrimoine. Globalement, les Français font un peu plus d'un peu tout. Et donc ça, c'est un premier résultat, je pense, important et qui rejoint d'autres travaux connus par ailleurs, hein, mais qui montrent que nos sociétés occidentales et la société française sont des sociétés de plus en plus culturelles, dans lesquelles cette dimension de la manipulation des symboles devient des enjeux premiers de nos sociétés.
Mais une hausse portée par une catégorie particulière en termes d'âge de la population.
Alors, voilà, c'est quand on entre dans le détail de ce message positif, on voit que les choses deviennent un petit peu plus complexes. Ce qu'on observe, c'est que, alors, d'une part, la force de l'entrée du numérique dans nos quotidiens Et ce qui est frappant en 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, le numérique existait déjà, hein, bien sûr, Internet était déjà là, mais en 10 ans, les pratiques portées par le numérique en termes d'écoute de musique, de visionnage de vidéos, de présence des plateformes dans nos pratiques, sont devenues extrêmement transversale dans l'ensemble des catégories de la population française, en milieu urbain comme en milieu rural, en milieu populaire comme dans les milieux plus éduqués.
Chez les retraités aussi.
Et chez les retraités aussi. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les écarts ont disparu totalement, en particulier en termes d'âge.
Tout le monde avance.
Mais tout le monde avance. Et ceux qui étaient loin derrière il y a 10 ans ont rattrapé les catégories qui pratiquaient déjà beaucoup.
Alors je vous propose de prendre peut-être 2 sujets avec vous aussi, Zoé Sfez. On va parler des pratiques culturelles en fonction des territoires. Commençons peut-être par les pratiques culturelles des jeunes.
Alors voilà, les pratiques culturelles des jeunes interrogent beaucoup, hein, et c'est là où je pense que ces résultats apportent vraiment un éclairage important, notamment en termes de politique publique. Les pratiques culturelles des jeunes, et c'est pas une surprise, deviennent fondamentalement structurées par les pratiques numériques, le visionnage de vidéos, les jeux vidéo qui deviennent très importants, l'écoute de musique enregistrée. Mais ces pratiques se combinent avec le maintien de pratiques plus anciennes de sortie, notamment le cinéma, la sortie au spectacle vivant, le théâtre, qui arrivent à maintenir malgré la percée du numérique, des niveaux élevés de comportement.
Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a une forme de rupture, parce que ce que vous dites aussi dans cette enquête, c'est que tout ce qui relève effectivement du spectacle vivant, de ce qu'on appelle la culture classique, la culture symbolique en France, est massivement investi, mais essentiellement par une génération qu'on connaît bien, celle des boomers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a cette apparence d'énorme succès, mais il y a vraisemblablement une grosse rupture en termes d'âge. Ce que vous écrivez et ce que vous dites, c'est que il y a toute une foule des jeunes, des très jeunes, qui ne connaissent pas et qui ne vont pas expérimenter la culture de cette façon-là. Il y a vraisemblablement une partie des jeunes, je crois, elle est assez urbaine, assez CSP+, qui continue d'aller au théâtre, par exemple, d'aller au cinéma. Mais on a l'impression qu'il y a toute une foule, toute une génération qui ne connaîtra plus du tout le même rapport à la culture que celle de ces aînés.
Absolument. Alors, chez les plus jeunes, sur ces formes les plus patrimonialisées autour de le théâtre, la musique classique ou la lecture ou encore la visite des lieux patrimoniaux, on a le sentiment en fait d'une génération qui est en train de se diviser en termes de pratiques, avec une partie de ces jeunes qui continuent à fréquenter ces lieux en les articulant de façon harmonieuse avec les propositions numériques qui existent par ailleurs, et une autre fraction de cette jeunesse qui, elle, se détache de ces propositions culturelles et qui semble, du coup, construire un rapport aux institutions culturelles et à ce qui fait patrimoine, et à ce qui fait patrimoine commun culturel. Donc, un rapport qui est en train de se transformer et de se structurer sous d'autres logiques.
Terminons avec les pratiques culturelles en fonction des territoires, où là on voit à la fois des rapprochements et puis des zones un peu que vous ne connaissez pas très bien, notamment les périphéries qui sont assez mal étudiées par votre enquête.
Oui, il y a un enjeu d'approfondissement important sur ces questions territoriales. Ce que permet de révéler l'enquête, c'est notamment un rattrapage important des territoires éloignés, ruraux, en termes de pratiques, dans beaucoup de domaines, le numérique, encore une fois, qui s'est beaucoup développé en termes de pratiques, hein, pas seulement en termes de couverture, mais en termes d'appropriation des outils, mais aussi le cinéma, le théâtre, la fréquentation des bibliothèques, qui ont vu se réduire les écarts avec les pratiques en milieu urbain. Il faudrait aller plus loin, parce que ce sont des grands constats, et pour aller plus loin, il faudrait mieux caractériser ce qu'est notre territoire et la question de la proximité avec les centres urbains ou les centres d'offres culturelles qui maillent le territoire.
Une question très concrète, ces enquêtes décennales, elles sont évidemment longues, très creusées. Elles ont une incidence, elles devraient avoir une incidence sur les politiques publiques. Qu'est-ce que ça appelle justement ce constat-là en termes de politique publique de la culture? On sait que si la France investit dans ces statistiques, c'est parce que c'est aussi un pays qui subventionne beaucoup la culture. Qu'est-ce que ça peut nous donner comme piste sur ce qu'il faudrait faire en termes de politique culturelle? On regarde ce que vous voyez.
Alors, c'est bien sûr pour ça que le ministère de la Culture consent depuis 50 ans à financer un dispositif de cette importance. Ça me donne l'occasion de discuter de ces résultats, bien sûr, au ministère, avec les ministres, avec leur cabinet, mais aussi avec les élus des collectivités qui sont des décideurs importants de la politique culturelle en France.
Mais qu'est-ce que vous leur conseillez notamment sur le spectacle vivant? Parce que là, on a bien compris que le spectacle vivant ou la lecture, par exemple, il y a un décrochage. Oui, en plus, il y a une crise du Covid.
Pour aller très vite, je dirais qu'un des messages principaux que je leur donne, qui n'est pas une solution, hein, j'en ai pas, mais qui incite à réfléchir, est aujourd'hui sur la façon justement de faire institution et de faire patrimoine ou de faire création. La jeunesse, les générations les plus récentes, comme je le disais, ne manifestent pas du tout le même rapport au patrimoine, à la culture, qui était celui des baby-boomers, avec une interrogation sur ce qu'est notre histoire commune, sur ce qu'est notre récit commun, avec des perspectives qu'on connaît tous, environnementales, sociales, qui inquiètent. Et donc, la nécessité de reconstruire, que ces institutions culturelles soient aussi des espaces, comme elles le sont souvent, hein, mais peut-être encore plus, des espaces de discussion, de mise en commun des récits, Oui, et véritablement de discussion de ce qui fait patrimoine et de ce qui fait récit commun.
L'enquête est à télécharger en ligne, gratuitement, sur le site du ministère de la Culture et du DEPS, département d'études de prospective et de statistiques du ministère de la Culture, dont vous êtes, Lou Wolf, le chef du département. Par ailleurs, Michel Guérin, dans Le Monde, en a rendu compte longuement, un article aussi à retrouver sur le site du Monde. Lou Wolf, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Dans un instant, le Village Global avec Ernesto Ottone, sous-directeur de l'UNESCO chargé de la culture, et nous parlons du Liban.
بعد شهرين تقريباً على المأساة اللي حلت ببيروت معهد العالم العربي بيقدم بالتعاون مع إذاعة فرانس كولتور برامج خاصة من 24 وحتى 27 أيلول سبتمبر عطلة نهاية أسبوع استثنائية بين باريس بيروت وفرانس كولتور. تعرف على كل شيء واستمع لكل شيء مع franceculture.fr. هيدي الحرب تورطني انا ولا انت ملاش فيها ولا الفتنه اللي وصلني لا انا ولا انت ملاش فيها حكومي أنظمة أنا ولا أنت ملاش فيها يا للعار ويا للأسف عايزة وطن ملاش فيها
s'appelle Yasmine Hamdan, artiste née au Liban, elle a fui Beyrouth avec sa famille alors dévastée par la guerre. Elle a ensuite grandi en Grèce, puis au Koweït, avant de devenir l'une des pionnières de la musique électronique libanaise. Aujourd'hui installée à Paris, elle est une figure musicale incontournable du monde arabe.
Soft Power, le village global.
Le Village Global, notre nouveau segment, notre nouvelle séquence, et dernière séquence d'ailleurs de cette émission, séquence internationale centrée sur les débats d'idées et la culture au niveau global, car le monde est un village global. Ce soir, notre invité fut ministre de la Culture au Chili, dans le gouvernement de Michel Bachelet. Il est aujourd'hui sous-directeur de l'UNESCO en charge de la culture, Ernesto Ottone. Rebonsoir, monsieur.
Rebonsoir.
Alors, Ernesto Ottone, vous faites, en votre titre, en votre qualité d'adjoint à la culture à l'UNESCO, vous avez fait partie de ceux qui se sont tout de suite mobilisés sur la question du Liban. L'UNESCO a lancé une initiative, Liberoute, ça c'était quasiment juste après l'explosion. Et puis vous avez animé très récemment, je crois, des débats qui s'appellent Resiliart Liban. Vous avez à la fois été sur place et puis vous avez entendu les acteurs de manière plus ou moins physique, selon leur présence. Ouais. Quel est le constat? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vraisemblablement, l'explosion qui a touché Beyrouth, très physiquement, elle a particulièrement impacté les musées, les galeries d'art. Vous le dites, il n'y en a plus que deux qui sont à peu près debout. Les librairies, c'est quoi le constat aujourd'hui sur, disons, ce qu'on appelle le secteur culturel libanais?
Bah, en fait, le Blas, ce qu'il a fait, c'est le 4 août dernier, c'est accumulé en plus de la pandémie et en plus, depuis octobre de l'année dernière, une situation qui est insoutenable pour les créateurs, les artistes au Liban. C'est-à-dire, et vous parliez de la déflation, c'est-à-dire une des seules politiques du ministère de la Culture qui existe encore, c'est pour les artistes de plus de 80 ans qui recevaient l'équivalent de 200 $, qui aujourd'hui équivaut à 15 $. Donc vous pouvez comprendre la crise économique, sociale, culturelle qui se produit. Et aujourd'hui, après l'expérience et après avoir fait ces trois débats tous les jeudis de Resiliart, on se rend compte que vous avez toute la société culturelle, qu'elle soit académique ou qu'elle soit vraiment de la création, qui est en crise pour deux raisons. Une, c'est parce qu'ils ont un désespoir, ils ne savent pas s'il vaut la peine de rester au Liban. Et ça, c'est la première fois après la crise institutionnelle qu'ils ont vécue après une guerre civile de plus de 60 ans. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit effectivement que un pays qui veut se redresser sans qu'il y ait justement cette pensée au niveau territorial, local, bah, ils ont pas beaucoup de choix de sortir. Et finalement, la dernière chose, c'est qu'il y a aucune confiance dans ce que vous disiez aujourd'hui, la gouvernance de l'État. Donc c'est pas contre un gouvernement spécifiquement, c'est contre l'État.
C'est contre l'État.
Il n'y a
en
pas de confiance dans l'État. Oui. Donc nos interlocuteurs, pour la première fois de l'UNESCO, c'est la société civile. On est obligé de travailler avec les ONG, avec les associations, non pas seulement par volonté, sinon parce que c'est le seul moyen. C'est-à-dire, le ministère de la Culture, c'est un des seuls exemples du monde où le ministère de la Culture était le ministère de la Culture et de l'Agriculture. C'est pour vous dire. Avec, par exemple, dans les industries culturelles, 40 staff pour tous les domaines de la culture, sur lesquels il y en avait 39 qui n'avaient jamais travaillé en culture. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a un problème.
Il y a un problème politique. Vous êtes quand même, on peut le dire, l'UNESCO, une institution politique. Alors, vous dépendez de l'ONU. Je rappelle que les États membres cotisent. Vous avez plusieurs fonctions. Vous avez des prérogatives en termes de sciences, en termes de patrimoine, en termes de culture. Concrètement, aujourd'hui, ça peut être quoi, votre rôle, face à une crise comme celle que connaît Liban sur le point spécifique de la culture? Parce qu'il y a aussi le volet éducation, mais on n'en parle pas ce soir. Typiquement, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens avec qui vous avez débattu pendant 3 jours?
Bah, aujourd'hui, on est en train de travailler sur 3 volets. Patrimoine, industrie culturelle et artistes. Pour la première fois, on sépare les industries culturelles et les artistes. Sur le patrimoine, bah, il y a 8000 bâtiments qui ont été affectés, sur lesquels 640 sont historiques, patrimoniales, et sur lesquels il y en a à peu près 82 que nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur le terrain avec une coordinatrice, des équipes, pour essayer de les sauver, parce qu'en plus, il y a les pluies qui arrivent. Donc, c'est les bâches, c'est la stabilisation des bâtiments. Et la deuxième chose, c'est au niveau des industries culturelles, c'est-à-dire nous sommes en train d'essayer de trouver, avec toutes les ventes aux enchères, avec le projet Libéraux, de lever des fonds. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de lever des fonds pour reconstruire les espaces, avoir du financement pour les matériaux. Ils n'ont pas de matériaux, ils exportent presque tout. Et finalement aussi, pour essayer de revitaliser quelque chose qui était dans les deux quartiers les plus affectés, qui sont Samihair et Jemaisé, aujourd'hui, essayer de reconstruire une vie culturelle qui a complètement disparu, parce qu'aujourd'hui, tout est en ruine. C'est-à-dire, c'est les deux secteurs où était concentrée toute l'activité culturelle.
Effectivement, on peut imaginer aussi concrètement, symboliquement, l'importance d'avoir des lieux culturels qui existent. Il y a aussi un volet sur lequel vous êtes très présent, l'UNESCO, et on le sait, vous avez traversé une décennie très particulière, puisqu'à la fois vous avez perdu le soutien financier d'Israël et puis des États-Unis. En même temps, vous avez vu, pour le moment en tout cas, vos ressources augmenter sous l'effet de votre nouvelle directrice Audrey Azoulay. Vous avez été particulièrement actif sur la question, notamment avec la révolution arabe, du trafic de biens culturels. Il est, on le sait, plus présent que jamais, je crois, vous pouvez peut-être m'en donner quelques chiffres, dans plusieurs régions pendant la crise du Covid. Et à Beyrouth, il y a des questions qui se posent très concrètement, puisque les musées sont un peu ouverts.
Les musées, les 6 musées qui ont été affectés sur les 8 aujourd'hui, bon, ils sont stabilisés dans le sens où ils ont été affectés sur Soc, le musée sur Soc et surtout le musée national. Mais aujourd'hui, ils sont plus protégés. Cependant, la crise du trafic illicite dont vous faites mention et que cette année on fête les 50 ans depuis la convention de 1970, aujourd'hui c'est un sujet. parce que aujourd'hui le trafic illicite, il se fait justement à travers tous les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, Interpol, les douanes nous ont donné, pas les chiffres exactement, parce qu'en ce moment tout est concentré sur la pandémie et les chiffres de la pandémie, mais effectivement ça a augmenté à peu près de 4000%.
4000% d'augmentation pendant la crise du Covid.
Pendant la crise du confinement global. Donc vous pouvez comprendre. Et aujourd'hui, on a des grands réseaux sociaux qui ont décidé de mettre des bannières. Et ça, c'est une victoire. Depuis 3 ans qu'on parle...
De bannir certains...
Des bannières pour interdire cela. On parle de Facebook, de Instagram, donc on parle des grands. Et ça, c'est un avantage parce qu'on a vécu, et aujourd'hui, on est en train de voir la crise, par exemple, sur la reconstruction de Mossoul, qu'en Irak, un tiers du patrimoine a disparu du pays, quoi. Il est quelque part... Et il circule plutôt par la région du Nord, pour être très franc. Donc aujourd'hui, on s'inquiète pour le Liban, puisque effectivement, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été détruites, mais aussi des œuvres dans les galeries qui aujourd'hui ne sont pas encore conservées.
Une dernière question peut-être sur cette situation à Beyrouth et plus généralement sur le rôle que peut jouer l'UNESCO. On l'a dit, l'UNESCO c'est une institution politique aussi, hein. Il y a un vrai volet politique. Vous avez eu, on en a parlé d'une augmentation de budget, là vous allez devoir renégocier l'argent qui vous est alloué par les États membres pour les années qui viennent. Le Covid va probablement aussi jouer dans les ressources qui vous sont allouées. Comment est-ce que vous envisagez votre rôle aujourd'hui en tant qu'institution affaiblie parfois parce que justement elle fait l'objet de débats politiques et peut-être même affaiblie financièrement? C'est quoi les priorités de l'UNESCO?
Ben, je vous dirais, comme on travaille sur les volets éducation, sciences, culture, océan aussi, aujourd'hui, pendant cette période des 6 derniers mois, le positionnement de la nécessité d'avoir des pays où les politiques culturelles, justement, deviennent essentielles pour la cohésion sociale, pour les inégalités, aujourd'hui, ce n'est plus du discours. C'est-à-dire, tous les États membres sont conscients de cela. Et les débats qu'on a créés, c'est un mouvement qu'on a créé avec Jean-Michel Jarre, qui était le premier qui s'est associé, qui est un ambassadeur de bonne volonté avec la CISAC. On a fait ça en avril. Aujourd'hui, on est à plus de 200 débats dans le monde, dans 99 pays. Et je peux vous dire qu'il y a des pays qui nous remercient parce que c'est la liberté d'expression, pas seulement des journalistes, mais aussi la liberté d'expression des artistes. Donc aujourd'hui, en plus de ce qui a été provoqué, c'est-à-dire essayer que le positionnement, les messages ou même certaines propositions de solutions qui viennent des artistes et non pas seulement des institutions culturelles ou des chefs, des directeurs des institutions.
Vous voulez dire que c'est l'institution étatique parfois qu'on fustige pour sa lenteur qu'est l'UNESCO. Là, vous dites que vous avez un accès presque direct.
On a un accès direct à la société civile dans la plupart des pays aujourd'hui grâce à la culture, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais surtout, le compromis que nous avons pris avec tous ces artistes, c'est que ces voix, ces opinions vont être rendues à tous les ministères de la culture, puisque le premier débat qu'on a fait par Résiliard, c'était la rencontre online de 7h30 que j'ai animée avec plus de 140 ministres de la culture online. Ça a été une expérience un peu dur, et je peux vous dire, à cause des décalages horaires. Donc, on a commencé à 9h du matin, on a fini vers 8h du soir. Mais
c'était pas là tous en même temps.
Non, c'était un après l'autre. Donc, j'en ai vu des discours. Mais le compromis, c'était que tous ces ministres vont avoir accès au débat. C'est-à-dire, on espère que cette fois-ci, tous les ministères, et pas seulement certains, vont pouvoir mettre en valeur ce que les artistes qui vivent finalement cette crise au plus profond de leur situation vont pouvoir apporter pour les réponses, non pas pour cette pandémie, mais surtout pour celles qui vont venir.
Et puis on va peut-être demander à Lou Wolf, chef du département d'études de prospective et de statistiques du ministère de la Culture, d'aider peut-être pour des études futures sur les parties culturelles au Liban qui permettront de corriger et d'essayer d'avancer aussi là-bas.
Ah, volontiers.
Voilà, vous prenez vos cartes de visite et vous préparez la suite. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous, Lou Wolf, du ministère de la Culture, Ernesto Ottone, sous-directeur de l'UNESCO en charge de la culture. Gabriel Attal était notre invité ce soir. Emmanuel Paquet de l'Express, Zoé Sfez, merci à vous également, de France Culture. La semaine prochaine, dans Soft Power, nous consacrerons notre émission au tourisme, en France, au temps du Covid. C'est un sujet, vous verrez, et à l'application Oui SNCF. C'est lié d'ailleurs, puisqu'il faut parfois prendre un billet de train pour aller quelque part. C'est
c'est la fin de cette tranche d'actualité en direct culture, médias, international et numérique. Dans un instant, le podcast de Guillaume Erner Superfell, suivi à 20h de Théâtre et Compagnie, l'émission coordonnée par Blandine Masson. Et j'ai encore le temps de vous signaler que demain, les matins de France Culture s'intéressent à l'interruption volontaire de grossesse. Et en seconde partie, François Hartog et Frédéric Worms seront les invités de Guillaume Erner pour leur nouveau livre à ne pas rater. Donc demain matin. En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.